France Inter.
À vous, chers auditeurs qui m'écoutez en podcast, pour l'apéro dans mon bistrot, nous avons rendez-vous avec un acteur qui a joué le gitan dans Un prophète. Vous l'avez vu dans Hippocrate et maintenant L'affaire Bojarski, où il joue un faussaire de génie. C'est Reda Kateb avec nous.
Bonjour, bonjour.
On se serre la pince ?
Je crois, on peut même se faire la bise.
Oh allez. Oui, je veux une bise.
Ça va ?
Bah oui, très bien. Il paraît que le démarrage du film s'annonce bien.
Ça a bien démarré, donc tout le monde est content. Apparemment, c'est super.
Il y a encore plein de choses à nous raconter à ce sujet. Et on va parler de vous aussi.
Allez, super.
Allez, venez vous allonger sur la banquette de mon bistrot.
Bien. Avec un petit café.
Ouais, bien sûr. Un samedi soir, faites attention, c'est fort.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Et d'abord, qu'est-ce qui me prouve que c'est le vrai Reda Kateb?
C'est une bonne question. Peut-être que c'est le sosie qui est là aujourd'hui. Peut-être que le vrai, il est en train de dormir. Peut-être qu'il est un peu en train de se reposer. Ouais.
Il va falloir que j'enquête.
Il va falloir me faire confiance. Ouais.
Je vais vous faire confiance, mais je vais me faire confiance aussi.
Bien sûr.
En vous faisant passer un petit test d'abord. Vous avez été projectionniste, Reda Kateb, au cinéma d'Ivry-sur-Seine, où vous avez passé votre enfance. Quel est le savoir-faire d'un projectionniste? Moi, je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui se passe quand on ouvre la cabine, qu'on est projectionniste? Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça marche? Emmenez-nous.
Alors, pour le coup, moi, j'ai connu les derniers temps de la pellicule dans ce métier qui a vraiment changé là aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je connais pas de près le métier de projectionniste aujourd'hui, mais les projectionnistes avec qui j'ai parlé me disent que vraiment, c'est un rapport avec des machines, des ordinateurs, des films qui sont aujourd'hui transmis par fibre, en numérique et tout ça. Et j'ai eu la chance de connaître ce moment où il fallait vérifier le film. Donc en fait, vérifier la pellicule du film avant de le monter sur un plateau. On recevait le film en 6 bobines, 7 bobines, ça dépendait de la durée du film. Et puis en fait, ensuite, il fallait vérifier que la pellicule était en bon état. Donc avant de voir le film, j'étais la première personne dans le cinéma à toucher le film. Voilà. Donc c'est déjà un rapport à la pellicule, en tout cas, c'est un rapport très physique, très sensible, je dirais. C'est Orson Welles qui disait « la pellicule est un ruban de rêve ». J'aime beaucoup cette expression et j'y pensais des fois quand je vérifiais la pellicule, même si je crois que j'étais un des pires projectionnistes de l'histoire du cinéma. Quand même.
Pourquoi ?
Parce que j'étais peu rigoureux, parce que j'ai déjà refait involontairement le montage d'un ou deux films en mélangeant les bobines parce que y a prescription, j'organisais des projections avec mes amis une fois que j'avais fermé le cinéma, donc je sais pas, j'ai par exemple Pulp Fiction de Tarantino avec une bande d'amis dans le Cinoche, voilà, des petites choses comme ça.
Très bien, donc si vous avez vu un film à Ivry-sur-Seine dans le désordre, peut-être c'était Reda Kateb.
Mais j'avais la chance de bosser dans un cinéma associatif qui montre aussi plein de films différents et d'avoir ce rapport avec les gens qui sortent de la salle, qui finalement viennent vous parler du film qu'ils ont vu. Le jour où j'avais mélangé les bobines, une spectatrice est venue me voir en me disant « Mais c'est quand même étrange le traitement de la chronologie dans ce film. » C'était un film qui jouait sur les saisons et où on sautait de saison en saison dans le désordre. Et je lui ai dit « Mais vous savez, le cinéma d'auteur français, c'est un peu particulier des fois. C'est beaucoup de liberté. » Et en réalité, juste derrière, j'ai refait évidemment le montage dans le bon sens pendant une partie de la nuit.
Il existe ce cinéma ?
Il existe encore, c'est le Luxi à Ivry-sur-Seine. Et dès que je peux aller y présenter un film où je joue, j'y vais, dès que c'est possible.
Vous aimez toujours parler avec les spectateurs après les films ?
Oui.
Vous allez parler avec vos voisins bientôt. Il y a une projection pour vos voisins à Montreuil, pareil.
Absolument. Ouais, au cinéma Le Méliès à Montreuil, où j'aurai des voisins, peut-être pas que, des gens qui sont venus de plus loin, mais j'aime beaucoup cette chose. Pour moi, le cinéma, même si j'ai conscience qu'il s'inscrit dans une industrie et tout ça, ce qui me plaît, c'est l'artisanat, c'est cette chose. On raconte des histoires et on bricole, et puis on échange aussi avec les gens. Ouais.
Vous avez été projectionniste au moment où vous faisiez pas mal de petits boulots. Et puis, vous avez commencé à jouer dans les lycées et les prisons. C'est ce qu'on appelle du théâtre d'intervention. C'est comme ça qu'on appelle ça ?
C'était du théâtre interactif. En fait, c'était inspiré d'une une méthode qui s'appelle le théâtre de l'opprimé, qui avait été créé par un Brésilien qui s'appelait Augusto Boal. et pour qui le théâtre pouvait être un outil de libération aussi pour les paysans brésiliens. Et c'était plus politique au Brésil. Et nous, on faisait des pièces un peu de prévention, enfin, autour de sujets très joyeux, comme l'alcoolisme, le suicide, les addictions. Et puis, on jouait une petite piécette, et après, on improvisait avec les gens. Et parfois, des gens réellement concernés par ces sujets dont on parlait. Et donc, pour moi, être acteur là-dedans, c'était être à un niveau de justesse égal à ces gens, quoi, avec lesquels j'improvisais.
Ah oui. Donc, ça a été une école, voire, vous dites, presque un conservatoire. Ça a été votre école, quoi.
Ça a été, en tout cas, une partie importante de comment je me suis construit artistiquement et formé comme comédien. Ouais.
C'est-à-dire que vous ne seriez pas le même acteur aujourd'hui si vous aviez suivi un parcours classique ?
Oui, je pense. Oui. Mais d'ailleurs, j'en avais pas le désir. J'ai pas passé les concours des conservatoires, tout ça. Mon père était comédien de théâtre, donc c'était plus une transmission un peu comme dans le cirque ou les musiques traditionnelles, quoi. J'avais grandi avec ça, et puis pour moi, c'était un peu comme... Enfin, il y avait quelque chose d'un peu naturel, ouais, quoi, là-dedans, même si après, il fallait travailler, apprendre et découvrir.
Est-ce qu'on peut jouer partout ? Parce que vous avez donc joué en prison, vous avez aussi fait clown pour des anniversaires, des mariages, et même au salon du camping-car.
Absolument.
C'est un public facile, ça, les...
Le salon du camping-car, ouais. Pas facile. Du coup, très formateur.
Ouais. Ouais, j'imagine. Mais donc, est-ce qu'on peut jouer partout ?
Je crois.
Ah ouais.
Je crois que, en tout cas, être acteur, même si... Aujourd'hui, je joue dans des films, donc les choses, encore une fois, voilà, sont multipliées dans les salles et tout ça. Mais je me suis remis à faire du théâtre aussi l'année dernière. J'ai retrouvé aussi cette chose-là de la scène d'où je viens et qui me tient vraiment à cœur et que je ne veux pas lâcher là, dans les temps qui viennent. Finalement, pour qu'il y ait quelque chose de théâtre qui se produise, il faut qu'il y ait deux personnes qui écoutent et minimum une personne qui a quelque chose à raconter, quoi. Donc ça pourrait se faire, j'imagine, ici, dans un coin du café. D'ailleurs, j'ai joué dans des bistrots à l'époque.
Vous dites, le théâtre, je ne veux pas le lâcher dans les temps qui viennent. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que moi, donc, je viens de ça, d'abord avec mon père, et puis après, avant de faire du cinéma, j'ai passé du temps à travailler au théâtre. Et ensuite, ayant des belles opportunités pour des beaux films et plein de choses qui se sont enchaînées, j'ai passé 15 ans sans rejouer au théâtre. Même si j'ai eu l'impression de garder un petit contact avec la scène à travers des lectures, des événements comme ça, mais un peu ponctuels. Et là, l'année dernière, j'ai joué Par les villages de Peter Handke au Festival d'automne avec un metteur en scène qui s'appelle Sébastien Kérouffi. Et ça a été, voilà, j'ai eu l'impression de revenir aux sources, quoi. Vraiment, il y a eu. Et pendant que je tournais le film L'affaire Bojarski, il y avait des soirs où je jouais au théâtre aussi. Donc c'était une période assez particulière, très intense, mais en tout cas dans laquelle je sentais que quand j'allais vers la caméra le matin, même si j'étais épuisé, parce que je dormais très peu et je jouais tout le temps, je sentais que j'y allais le muscle chaud, je dirais. Quelque chose de... voilà.
C'est la petite technique Rédac à Thèbes. Et vous avez travaillé pour Radio France, dans des fictions radio qu'on appelait des dramatiques.
Oui. Qu'on n'appelle plus des dramatiques, c'est fini ?
Non, on appelle des fictions radio aujourd'hui. Okay. Ouais. D'ailleurs, ça tombe un peu en désuétude.
Ouais.
C'est l'un des premiers dommages collatéraux des restrictions économiques.
Et ouais,
tend à disparaître. Ça, c'est, vous pensez que c'est désuet, ça, aujourd'hui, autant de Netflix, et d'Instagram, d'avoir de la fiction radio ?
La fiction radio, non, je ne pense pas que c'est désuet, mais... Je pense que tout est à réinventer toujours, quoi. Donc, moi, j'ai connu, alors ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais les dernières fois où j'ai fait des fictions à France Culture, j'ai vu arriver une nouvelle génération de réalisateurs, des gens qui avaient envie de faire des choses différemment, donc qui sortaient des studios. On a enregistré même dans le parking de la maison de la radio, ou alors dans la rue, des choses. Et une nouvelle énergie, quoi, voilà. Et donc, en fait, quand les gens sont pas dans un ronronnement ou eux-mêmes dans une désuétude, rien n'est désuet.
Et à la radio, on joue vraiment, c'est-à-dire, même si c'est que le son, on est investi corporellement aussi et...
Ouais, en tout cas, j'ai vu... moi, j'étais très jeune quand j'en ai fait. Après, c'était plus des lectures que je faisais. Mm-hmm. Et donc, non, je dirais pas que j'étais tant investi corporellement, mais que je me disais toujours, je parle à une oreille, quoi. Voilà, le micro, et j'imagine c'est ce que vous vivez aussi. Et je suis un amoureux de la radio. Moi, j'écoute énormément la radio... beaucoup de podcasts. Voilà, j'aime beaucoup le rapport justement au son plus qu'aux images dont on est tout le temps bombardé. Ouais.
Charline Vaninacker, Bistroscopie sur France Inter.
Rédac à Thèbes, maintenant que j'ai la preuve que vous êtes le vrai, On va pouvoir parler
bon, ça y est
ouais. de l'affaire Bojarski, le film de Jean-Paul Salomé qui est actuellement sur vos écrans. Jan Bojarski fut un faussaire de génie dans les années 50, notamment un artiste et un escroc qui a fabriqué à lui seul des tonnes de faux billets réputés pourtant infalsifiables. Les siens étaient indétectables et pourtant plus réussis que les originaux. Et le film de Jean-Paul Salomé raconte l'histoire de cet ingénieur polonais réfugié après la guerre et qui, malgré ses inventions géniales et révolutionnaires, et malgré ses compétences, peine à trouver du travail en France. Alors, d'une certaine manière, il s'en crée un. Ces faux billets, qui valent aujourd'hui une fortune, qui sont élevés au véritable rang d'œuvre d'art. Et aujourd'hui, le film est à l'affiche, donc on découvre, ou redécouvre ce Bojarski. On découvre même son existence à travers la promotion que vous avez faite dans les médias. Je me suis dit, en voyant les affiches, en vous voyant parler de ce film, ça déclenche, même avant sa sortie, déjà un appétit particulier, cette histoire. Vous sentez cet appétit-là ?
Oui, oui, en tout cas, je sens que ça se passe très bien dans les salles, avec les gens à qui on présente le film, qu'il y a des débats très riches et très joyeux avec les gens. Et puis, il y a plein de manières de lire ce film aussi. Et comme vous le rappeliez, il y a aussi l'histoire de cet immigré polonais dans cette France des années 50 qui peine à finalement trouver une place pour ce talent qu'il a et qui peine à déployer ce talent et qui finalement s'est donné à fond dans cette chose illicite comme il aurait pu se donner dans la peinture, la photographie ou d'autres arts. Et c'est vrai que le fait que ce soit une histoire vraie, ça apporte aussi une chose en plus à nous et aux gens aussi.
Oui. Et l'histoire est fascinante.
L'histoire est fascinante, et cet homme qui a été finalement oublié, puisque la plupart des gens ne connaissaient pas du tout son histoire avant qu'on parle du film et tout ça, on a presque un peu l'impression de lui rendre un peu justice, quoi, à cet homme. Et c'est très fort. Du coup, notamment avec sa fille, qui tout d'un coup est très heureuse qu'un film comme ça existe sur son père, il y a presque quelque chose d'un peu réparateur. Donc là, c'est le moment où le cinéma comme ça croise très fort la réalité et où il y a quelque chose en plus qui se passe que juste un film, quoi.
Parce que c'est un escroc, mais c'est un artiste. Et surtout, il y a comme une forme de... Vous parlez de réparation, des circonstances atténuantes à Jan Bojarski, parce que peut-être le contexte des années 50, qu'est-ce qui se passe dans ces années-là ?
Dans ces années-là, être immigré polonais, c'est être italien un peu plus tard ou arabe un peu plus tard. Enfin voilà, c'est toujours... finalement une défiance vis-à-vis de cette personne qui vient de l'étranger. Moi, c'est étonnant parce que très souvent, j'incarne l'étranger dans des films qui peuvent venir de plein d'endroits différents.
Le gitan dans Un prophète, par exemple.
Oui, le médecin interne dans Hippocrate, enfin plein de... Et c'est comme une figure récurrente d'incarner des personnages qui, encore une fois, portent un talent, un savoir-faire, en fait, sont une richesse quoi, pour notre pays, et par la force des choses, par un contexte, ne trouvent pas leur place. Donc, Bojarski, je ne crois pas du tout qu'il ait fait des faux billets sur un mode de revanche, mais en revanche, c'est un double mouvement. En réalité, il y a, je pense, ces difficultés-là pour lui, polonais, dans la France des années 50, et aussi un artiste très pur, très handicapé aussi du quotidien, et qui ne savait pas du tout se vendre, quoi. Voilà, qui était aussi un homme extrêmement discret, extrêmement taiseux, qui oubliait de renouveler ses brevets d'inventeur. Et il a inventé le déodorant habile.
Machine à dosettes.
Voilà, plein de choses, plein d'objets que vous et moi, on a utilisés depuis qu'on s'est levé ce matin, quoi. Enfin, voilà. Et donc, il aurait pu être richissime par ça, mais n'étant pas un homme de marketing et vraiment un artiste, en tout cas, je l'ai toujours vu comme ça. Voilà, il a cru, je pense, un peu naïvement qu'il ne ferait jamais de prison parce que c'était le meilleur, quoi. Voilà.
Il y en a d'autres, lui, qui pensent ça. On peut dresser les contours du Bojarski que vous incarnez, vous, peut-être à travers ses vêtements. Je sais que le costume a beaucoup d'importance toujours pour vous, évidemment. On peut d'ailleurs saluer les décors de Françoise Dupertuis et les costumes de Dorothée Guiraud.
Ah bah super, c'est rare qu'on en parle. Merci de les citer. Ouais. Et c'est vrai que pour nous, c'est très important. Oui, c'est très important. Je crois vraiment, en plus que dans d'autres films, la colonne vertébrale du personnage, pour moi, s'est vraiment construite pendant les essayages de costumes. On en a fait beaucoup, et à certains moments, tout d'un coup, il y avait une évidence. Les chaussures, c'est les premières que j'ai essayées qu'on a utilisées. C'était tout de suite évident. Et puis pour d'autres choses, ça a demandé plus de recherche.
Il a quoi, des pulls en laine sans manches, une petite cravate?
Ouais, il y a aussi une évolution parce que du coup, il commence par une petite casquette et puis un costume dont on imagine que c'est le seul qu'il a dans sa garde-robe, donc très élimé et tout ça. Et puis, dans les paradoxes de cet homme, il y a aussi et la discrétion et le fait d'aimer la sape, quoi, d'aimer bien s'habiller. Donc, plus le film avance, plus j'ai la chance de porter des beaux chapeaux et des longs
oui.
manteaux en laine.
Ouais, ouais. Oui. Il garde sa petite moustache, d'ailleurs.
Alors oui, ouais. ça, il a pas. Je crois qu'il n'y a pas eu de changement ouais. de ce point de vue-là. Par contre, en maquillage et tout ça, c'était assez incroyable parce que on tourne les choses dans le désordre et il pouvait arriver que j'ai 25 ans le matin et 50 ans l'après-midi, par exemple. Donc c'était pour notre équipe aussi maquillage énorme. Ouais. Ouais.
C'est pas grave parce qu'il y a un projectionniste qui va remettre tout ça dans l'ordre à un moment. Jean-Paul Salomé, le réalisateur, a écrit en pensant à vous, au point que vous ayez collaboré un peu à l'écriture.
Je peux pas vraiment dire que j'ai collaboré à l'écriture dans le sens où j'ai pas écrit une ligne de dialogue ou une scène, où j'ai pas ajouté de scène. Par contre, on a eu des rendez-vous pendant tout le temps du chantier d'écriture de scénario de Jean-Paul et de son co-scénariste. On faisait des lectures, c'était l'occasion de lui poser des questions, parfois aussi de mettre un peu mon grain de sel, mais vraiment comme un acteur qui va jouer un rôle, pas comme un scénariste.
Ah, on appelle ça un chantier. chantier d'écriture.
C'est un vaste chantier, un tournage.
Ouais. Et vous qui avez une approche assez documentaire, même méticuleuse, lorsque vous préparez un film ou un rôle, vous avez scruté les archives?
Alors, il y a très peu d'éléments. Mm-hmm. Et j'avais pas du tout envie de faire un travail d'acteur imitateur qui joue un biopic. Donc, je voulais pas du tout chercher à coller à Bojarski.
Vous n'avez pas voulu faire être faussaire, donc.
Bah, d'une certaine manière, oui. Mais un peu comme Bojarski, j'ai cette ambition que la copie soit plus forte que l'original. Dans le sens où c'est ce qu'on vient chercher quand même quand on va au cinéma, un peu plus que juste la réalité, quoi. Mm-hmm. Et du coup, non, j'ai pu presque considérer ce personnage comme un personnage de fiction. En étant extrêmement libre, il fallait jouer les codes de l'époque, évidemment, les gestes, le phrasé, beaucoup de choses comme ça. Mais pas d'imitation. Et voilà, ça a donné beaucoup de liberté, tout en sachant au fond que cet homme a existé. Ce qui charge d'une certaine manière quand on va au plateau.
Et puis les gestes aussi, parce qu'il travaille l'imprimerie, c'est de l'orfèvrerie, donc il y a des gestes.
Bah, du coup, vous citiez notre chef décoratrice sur le film, mais c'est les personnes de l'équipe déco du film qui m'ont coaché sur ces machines qu'ils avaient reconstruites quasiment à l'identique des machines de Bojarski, qui m'ont appris à les utiliser, et puis qui ont passé du temps avec moi pour m'apprendre à être crédible dans ce métier-là. Moi qui ne suis pas du tout bricoleur.
Non, on a compris avec l'histoire de la projection. Vous n'avez pas retrouvé des gestes de projectionniste et d'avoir le film entre les doigts?
Peut-être un peu, si c'est vrai. Et puis il y a aussi un rapport à la matière, je trouve, qui est vraiment particulier parce que c'est des objets, des machines qu'on n'a plus l'habitude d'utiliser. Et même les sons, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a comme une espèce de transe un peu méditative à faire ces gestes répétitifs, à entendre la courroie en cuir, le métal, le bois, toutes ces choses-là. Et ça m'a beaucoup aidé à... En fait, après avoir tourné un peu ces scènes-là, je me disais, mais il est bien quand il est dans son atelier, ce type, quoi. Et juste après, je jouais une scène dans la cuisine avec le bébé qui pleure, ma femme qui me le met dans les bras. Et là, je me dis, ah, il est un peu moins habile en famille, on va dire.
Parce qu'il a commencé à travailler dans une imprimerie pour imprimer des choses tout à fait orthodoxes au départ. Imprimerie qui est monumentale. Vous avez connu comme moi le temps de l'imprimerie, vous?
Ouais, moi j'ai carrément édité un journal avec mes copains quand j'étais à l'école primaire. Et j'allais voir l'imprimeur qui nous avait fait un bon prix pour ce petit journal qu'on avait écrit nous-mêmes.
Ouais. Ah ouais. Et il s'appelait comment ce journal à l'école?
Les petits faillots.
Pourquoi?
Et mon père avait fait une couverture en dessinant des haricots. C'était, voilà.
Ah, parce qu'il savait dessiner aussi. C'est tous les talents dans la famille quand même, hein. C'est fou. Ils faisaient quoi? Ils étaient où vos grands-parents à cette époque-là? Alors, pendant que Bojarski faisait ses faux billets là.
Alors mon grand-père du coup maternel, qui est venu de Tchécoslovaquie dans les années 50, a commencé à travailler comme plongeur au wagon-lit. Et ma mère pensait qu'il allait sous la mer avec un scaphandre, mais il faisait la vaisselle dans le train. Voilà. Et mes grands-parents algériens vivaient en Algérie au début du soulèvement algérien, de l'insurrection des Algériens. Et mon père naviguait entre le football et le théâtre. Mmh. Et découvrait à fond le théâtre.
C'est marrant parce que votre première réplique à 8 ans, sur scène, c'est avec votre père au théâtre et vous avez un ballon de foot au pied.
C'est vrai, ouais, c'est vrai, absolument. Ouais. C'était même « Mon ballon, monsieur, rendez-moi mon ballon
». Voilà, c'est la toute première réplique de l'histoire de votre carrière.
Les premiers mots que j'ai prononcés sur une scène, ouais, c'est vrai. Ouais.
Est-ce que Reda Kateb, vous rêvez qu'un jour, vous puissiez faire toute une interview sans qu'il soit fait allusion aux origines étrangères de vos aïeux? Est-ce que c'est possible, ça?
On y est presque arrivé, non? Enfin, en tout cas, j'ai moins l'occasion de parler de mes origines tchèques. Je sais pas. En tout cas, si on doit regarder comme ça quelque chose pour moi d'optimiste et tout ça, c'est que lors de la production du film et avec les spectateurs dans les salles, Reda Kateb qui joue un immigré polonais, ça pose de problème à personne. Mmh. Voilà. Enfin, en tout cas, personne ne me l'a dit. Mmh. Voilà. Donc, je trouve que c'est déjà une bonne chose. T'as Raïm en Aznavour, immigré arménien, moi en polonais. Il faut s'accrocher aussi à des choses positives qu'on peut voir.
Cette affaire Bojarski, est-ce qu'elle avait déjà été effleurée ou évoquée au cinéma?
Pas du tout. Justement, c'est pour ça aussi qu'il est inconnu. C'est que il n'y a jamais eu de fiction qui s'est emparée, ni même de roman, je crois.
Parce que j'ai trouvé en 66 Le jardinier d'Argenteuil.
Avec Gabin?
Ouais.
Qui parle de Bojarski? Je crois que dans le cap se rebiffe aussi les questions de fausse monnaie. Ouais.
En tout cas, Gabin joue un faux monnayeur. Sans doute a-t-il été inspiré ce personnage par Bojarski.
Mais en même temps, on a tout fait, enfin en tout cas la Banque de France a tout fait pour que l'histoire de cet homme soit oubliée d'une certaine manière. Il y a eu quelque chose où il a montré ses machines pendant qu'il était en prison. À la fin du film, on a quelques images d'archives où on voit Jan Bojarski faire une démo à la police de sa fabrication de faux billets, parce que personne ne croyait qu'il était seul à le faire. Et après cette démonstration, une dalle de béton a été coulée dans tout son atelier. Donc ça raconte quelque chose de la volonté d'étouffer cette histoire, d'oublier cet homme.
Mmh. Et là, vous pétez la dalle de béton.
Là, on pète la dalle de béton dans tous les sens. Du matin au soir et du soir au matin. Ouais.
Sur grand écran, dans vos cinémas, Bojarski, qui était un peu clandé chez lui, il cachait ses activités à sa famille, qui ignorait tout de ce qu'il faisait, pensait juste qu'il inventait des stylos à billes et des déodorants à billes.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Reda Kateb, vous êtes musicien, vous, non?
Alors, vraiment amateur, quoi. Mais amateur dans le sens, j'aime la musique, quoi. Ouais, j'écoute tout le temps de la musique.
Mais il y a un style musical dans lequel vous touchez un peu les instruments, paraît-il.
Un petit peu. Alors,
dans le gnawa, le style musique. Ouais. Voilà. Il n'y a pas des instruments que vous touchez un peu,
Il y a un instrument.
On m'aurait menti.
Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, vous faites des gestes avec vos mains qu'on voit pas à la radio. Mais donc, ça, c'est des castagnettes en métal, qu'on appelle des crotales ou des carcabous. Oui, en effet, ça fait des rythmes. Je peux vous le faire dans le micro, ça fait ça.
Ah ouais, allez-y. Voilà le lien entre le Maghreb et les Gitans.
Ouais, certainement. Ouais, et en tout cas, absolument, parce que c'est le rythme-là, par exemple, ce rythme-là, je l'ai entendu au Rajasthan, en Inde, là d'où vient tout le peuple tzigane.
Attendez, vous êtes en train de me dire que vous avez fait un stage au Rajasthan, musique, c'est vrai?
Oui, mais il y a très longtemps.
Vous êtes allé pour ce stage de musique?
Oui, je m'étais inscrit dans un stage. La musique, je trouve que c'est un passe-partout merveilleux pour voyager, découvrir des gens, découvrir des choses et partager des choses avec les gens, même quand parfois il y a la barrière de la langue. C'est une manière de se dire des choses, en fait, la musique. Et puis, je suis passionné par les liens aussi entre, justement, les musiques, les peuples, les migrations aussi, et la manière dont les musiques évoluent. Je me souviens de ce film de Tony Gatliff, à l'époque, qui s'appelait L'Achodrome, et qui racontait sans parole l'histoire du peuple tzigane, qui justement partait du Rajasthan jusqu'en Europe. Donc
on a évoqué le style musical gnawa que vous affectionnez. On va glisser quelques notes.
Voilà, et ça j'en joue aussi.
Alors ça, c'est quel instrument ça?
Ça s'appelle le gembri.
Ah, ça ressemble gembri. À quoi?
Ah ouais, mais il y a plein de trucs après derrière.
C'est un instrument à quoi? Il y a trois cordes, c'est ça?
C'est ça, voilà. J'étais en train d'en écouter en arrivant là tout à l'heure. Ouais.
Vous écoutiez quoi, dites-nous, Reco de gnawa?
Un musicien qui s'appelle Hamid El Kasri et qui joue du gnawa traditionnel.
Ah ouais. Dites, ça va, il y a trois cordes.
Ça va, ouais. On peut faire beaucoup de choses avec trois cordes. Mais c'est pas. C'est
Django,
pas
il avait trois doigts, il y a trois cordes. Ben, ça va, voilà. C'était fait pour lui.
Mais c'est un peu comme le blues, c'est des musiques qui peuvent être en apparence un peu simples, mais dont les variations sont très subtiles, en fait, et c'est un mélange de quelque chose de primaire, brut, et très, finalement, beaucoup plus large et subtil, et qui permet d'exprimer des émotions. Voilà.
Et donc, la musique brute, mais aussi, ça peut très bien se marier avec des lectures de poèmes de votre grand-oncle, Kateb Yacine.
Ça peut.
Ça pourrait.
Ça peut, et ça l'a été dans des cafés. J'ai fait des lectures de poèmes de Kateb Yacine, donc en effet mon grand-oncle avec Amazir Kateb, son fils notamment, qui est chanteur d'un groupe qui s'appelle Gnawa Diffusion et qui joue de cet instrument. Donc à l'époque, il y a quelques années, on a fait des belles soirées comme poésie, musique, notamment à Roubaix ou à Lille, dans le nord de la France, des très beaux moments.
Et déjà au lycée, quand vous passez votre bac théâtre, vous choisissez un monologue de Kateb Yacine. Le texte s'intitule « Le cadavre encerclé ». Il parle de quoi ce texte ?
Alors, c'est une pièce qui avait été montée par Jean-Marie Serrault à l'époque et qui démarre après les massacres de Sétif, Galma, 8 mai 1945, à un moment où la France avait dit aux Algériens que s'ils participaient à la lutte contre le nazisme, alors, à la libération de la France, les Algériens pourraient être indépendants. Et donc, les gens sont sortis dans la rue pour manifester leur joie et l'armée leur a tiré dessus. Donc, ça a été un grand massacre, une date vraiment noire de l'histoire tout court. Et cette pièce commence par ce monologue de ce personnage de l'Ardar qui s'élève d'un tas de corps et dont la parole est... je dirais d'un lyrisme presque de tragédie grecque, quoi. Voilà.
Et quand on vous parle de Kateb Yacine, et comme vous pouvez le déclamer par cœur, il y a un passage ou une phrase ou que vous pourriez nous transmettre là.
Oui, bien sûr. Pour nous, amants terre à terre, il faut crier, hurler plus fort que les loups. Ceux qui veulent disparaître peuvent baisser le ton. Pour nous, il nous reste à gueuler avec patience.
Et pour autant, Reda Kateb, vous avez choisi de ne pas faire le conservatoire, non ?
Oui, alors c'était un choix un peu... Déjà, je ne sais pas si le conservatoire m'aurait accepté, parce qu'il y a quand même des auditions qui ne sont pas faciles à réussir. Mais j'avais presque une forme d'intuition, en tout cas, que mon chemin passait plus par me frotter à la vie, à d'autres choses, qu'un rapport scolaire à ma formation artistique. Et puis en même temps, c'était un peu présomptueux de ma part de passer aussi à côté d'un enseignement que j'aurais pu recevoir là-bas. Mais il y avait quelque chose d'une transmission qui s'était faite avec mon père, et je pense que j'avais du mal à avoir... peut-être d'autres personnes que je pouvais considérer comme des professeurs.
Voilà. Oui, votre père qui a fondé le Théâtre National Algérien, qui a aussi beaucoup joué en France, des tas de rôles, et qu'on peut apercevoir, évidemment, bien sûr, dans Rabbi Jacob, où il joue le complice du méchant qui fait plonger M. Pivert, Louis de Funès, dans la bassine de Bubblegum. C'est vrai que quand on regarde, on se dit « Mais oui, je le connais, évidemment, on le voit, qui c'est ?»
Il y a une exposition qui se prépare pour, je crois, l'automne prochain, au Musée de l'Immigration, à la Porte Dorée, sur, justement, les artistes issus de l'immigration dans ces années-là, donc la génération de mon père. Et on m'a demandé des documents, donc j'ai donné aussi quelques documents que je pouvais avoir. Et je suis très heureux que mon père puisse avoir une petite place aussi dans cette exposition.
Mais bien sûr.
C'était une époque où c'était plus compliqué, beaucoup, beaucoup plus compliqué que pour moi aujourd'hui, de trouver une place dans ce beau pays pour des artistes immigrés algériens. Un peu comme pour Bojarski dans le film.
Oui. Pour autant, il n'est pas devenu faussaire, votre père.
Non.
Donc, lui, il est comédien, votre père. Quand vos camarades à Ivry-sur-Seine, les papas sont plutôt ouvriers. Ouais. Vous avez mesuré que c'était peut-être un avantage ou ça fait se sentir un petit peu différent quand vous étiez enfant ?
J'étais très fier quand Rabbi Jacob passait à la télé et que mon père venait me chercher le lendemain. C'était vu par tout le monde, quoi. Enfin, on avait trois chaînes, je crois, de télévision. Et puis, en même temps,
parlait.
Ah ouais, ouais, ouais. Franchement, j'étais la star de la cour d'école dans ces moments-là. Mais Après, ouais, non, les gens, enfin, on faisait pas non plus toute une histoire, mais quand même, ils me demandaient comment c'était, tout ça. Puis moi, j'étais, ouais, très fier de mon père. Après, j'ai pu aussi, quand même, avec lui, connaître les hauts et les bas de ce métier, les périodes plus difficiles et tout ça. Et je crois que ça m'a un peu vacciné sur le... comment j'ai commencé à envisager mon parcours après aussi. Ouais.
Et votre maman était infirmière, et infirmière de nuit. Donc, ça veut dire que vous avez dû vous gérer.
Pas mal, ouais, je me suis pas mal géré. Ouais. Je me suis pas mal géré vite, ouais, tôt, mais bon, c'est comme ça.
Ils se sont rencontrés comment, vos parents ?
Ma mère allait voir mon père qui jouait Othello de Shakespeare dans un théâtre à Bordeaux. Elle était fan.
Oh là là, magnifique.
Et donc voilà, elle allait le voir, je crois, tous les soirs. Et puis un soir, elle est allée au café avec l'équipe des comédiens, comédiennes. Et c'est comme ça, je crois. Enfin, en tout cas, c'est le récit que j'ai reçu et c'est comme ça qu'ils se seraient rencontrés. Oh,
c'est génial d'être le fruit de cette histoire.
Ben ouais, en tout cas, j'ai beaucoup de chance d'avoir et des parents qui m'ont beaucoup aimé et je crois cultiver chez moi un sens de la liberté, quoi.
Ouais. Alors, j'ai fait le compte depuis 2008, Reda Kateb, vous avez à votre actif 52 longs métrages, courts métrages, téléfilms, et j'ai pas compté les théâtres, les lectures. J'en conclus que vous n'aimez pas les vacances, en fait.
J'adore les vacances et je tourne pas tout le temps. Ah, franchement, bon. À entendre statistiquement comme ça, c'est un peu vertigineux. Mais je suis encore loin de la satiété, quoi. J'ai beaucoup d'appétit encore, de gourmandise, aussi pour les vacances.
Je vous encourage tous et toutes à aller voir ce très très beau film de Jean-Paul Salomé qui s'appelle donc L'affaire Bojarski, où on peut saluer aussi les prestations de vos complices, bien sûr.
Je les cite.
Allez-y.
Sarah Giraudot, Bastien Bouillon, Pierre Lottin, Olivier Lousteau et beaucoup d'autres.
Ouais. Et on rappelle les décors de Françoise Dupertuis et les costumes de Dorothée Guiraud. Parce que là aussi, c'est presque des personnages à eux tout seuls.
Oui, et alors j'en profite aussi pour rendre hommage à Nelly Robin, la chef maquilleuse. En anglais, on dit make-up artist, l'artiste maquilleuse, avec qui je travaille depuis, je dirais, une quinzaine d'années aujourd'hui et qui m'aide à ces transformations énormément. Donc, je ne voulais pas l'oublier.
L'affaire Bojarski est en salle. Merci beaucoup, Reda Kateb.
Merci pour l'accueil, merci pour le café.
Avec joie. Ainsi s'achève Bistroscopie. Merci à Ophélie Vivier, chargée de programme, François Audouin à la réalisation, Mickaël Simon à la technique, Ronan Maé au mixage et Noémie Boncourt pour la documentation. Je vous retrouve samedi prochain à 19h20.